13h,
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Et bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée. À la une, bien sûr, troisième samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Et pour l'instant, les incidents se concentrent à Paris autour de la place de l'Étoile. Situation très tendue sous l'Arc de Triomphe il y a quelques minutes autour de la tombe du soldat inconnu. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, parle de 1500 perturbateurs. Nous ferons le point avec Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 sur le nombre de personnes interpellées et sur leur profil. 81 interpellations au dernier comptage. Toujours des actions en région, nous serons au péage d'Antibes où des pompiers ont rejoint les Gilets jaunes. À 13h, dans tout terrain, nous reviendrons largement sur cette crise des Gilets jaunes et sur les revendications qu'elles portent. Et avec le sociologue Jean-François Amadieu, nous verrons comment l'exécutif peut sortir de cette impasse. Le journal des sports, avec la victoire de Saint-Etienne 3-0 face à Dante hier soir, c'est en Ligue 1. Et puis la météo avec un samedi très maussade et des températures comprises entre 9 degrés et 18 au sud.
Europe 1.
Et donc, direction pour commencer ce journal, les Champs-Élysées. Après les violences de samedi dernier, l'avenue a été placée sous très haute surveillance, autorisée aux piétons avec des fouilles systématiques mais interdites à la circulation. Pierre Herbulot, vous êtes en haut des Champs-Élysées, place de l'Étoile. Ça n'a pas empêché ce dispositif de sécurité de la présence de près de 1500 manifestants, des perturbateurs pour le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et la situation est particulièrement tendue sous l'Arc de Triomphe, Pierre, autour de la tombe du soldat inconnu.
Oui, absolument. C'est là qu'il y a une petite demi-heure, on a vu une scène absolument saisissante. Les Gilets jaunes à genoux en train de chanter la Marseillaise juste autour de cette tombe soldat inconnu. La suite est extrêmement confuse. Des manifestants ont essayé de placer des barrières autour de la tombe. Ce que j'ai vu ensuite entre deux épais nuages de gaz lacrymogène, c'est aussi un cordon de CRS. Toujours sous l'Arc de Triomphe, littéralement pris d'assaut par une centaine de manifestants. Les CRS ont répondu, répliqué avec leur matraque. C'est la première fois depuis ce matin que je vois des affrontements au corps à corps. Parce que sinon, depuis le début des tensions, autour de 9h du matin, c'était gaz lacrymogène et grenades assourdissantes contre pavés et bouteilles. Là, il faut vraiment différencier les gilets jaunes pacifiques qui restent sur le côté, qui reste présent, et d'autres, moins nombreux, mais beaucoup plus violents, venus pour affronter les forces de l'ordre. En ce moment, elles quadrillent toujours les rues tout autour de la place de l'Étoile et tentent, semble-t-il, d'évacuer petit à petit les manifestants encore très nombreux. Contrairement à la semaine dernière, il n'y a personne sur les Champs-Élysées, personne ou presque, puisque un cordon de policiers important est situé devant cette avenue. Mais comme la semaine dernière, ce qui va rester aujourd'hui, semble-t-il, ce sont ces images de violence entre manifestants et forces de l'ordre. Elles vont rester, encore une fois, sur un lieu emblématique de la capitale. Ce ne sont plus les Champs-Élysées, mais maintenant la place de l'Étoile.
Pierre Herbulot, en direct de la place de l'Étoile à Paris. Vous le disiez, Pierre, 1500 perturbateurs autour des Champs-Élysées, dit le ministre de l'Intérieur, mais aussi des manifestants venus faire entendre leur voix sans aucune volonté de casser. Et c'est le cas de ce gilet jaune qui ne s'attendait pas à se retrouver sous les gaz lacrymogènes.
Il y a des groupes qui sont partout, qui essaient de passer dans toutes les ruelles. Et là, ben, malheureusement, comme ils ont cerné, je dis bien, donc l'Arc de Triomphe, on essaye de forcer les passages pour pouvoir au moins avoir accès sur les rues parallèles. Quoi qu'il arrive, nous on est là pour manifester, représenter le peuple, défendre les intérêts du peuple. Donc on sera là, oui, toute la journée. On est venu là pacifiquement et ben, on fait canarder depuis ce matin. Donc c'est un peu, c'est pas la guérilla urbaine, mais c'est une révolte du peuple qui monte en puissance. Et là actuellement, eh ben, malheureusement, on s'aperçoit que ben, on n'a pas le droit à manifestation. Donc c'est dommage et ça va arriver à un moment où ben, ça va vraiment péter et on ne pourra plus rien faire.
Comme les autorités le redoutaient, donc les tensions se concentrent, on le voit depuis ce matin autour des Champs-Élysées. Plus de 5000 hommes ont été mobilisés pour cette journée, rien qu'à Paris, 2000 de plus que la semaine dernière. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 nous a rejoint en studio. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Déjà Guillaume, où en est-on des interpellations?
Alors actuellement, d'après la préfecture de police, 81 personnes ont été interpellées à Paris depuis ce matin, la plupart pour des jets de projectiles ou des ports d'armes par destination. Les policiers ont notamment saisi une fronde ou encore un marteau qui a été lancé sur les forces de l'ordre. Pour l'instant, le dernier bilan fait état de 10 blessés. 7 manifestants et 3 policiers ou gendarmes. L'essentiel des affrontements, on l'a entendu, s'est concentré autour de l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile et dans les rues adjacentes. Les casseurs qui s'en prennent aux forces de l'ordre ont été bloqués à cet endroit en raison du bouclage de l'avenue des Champs-Élysées et ils ont été évacués il y a quelques minutes avec l'aide des canons à eau. Pour l'instant, ailleurs dans Paris, pas d'autres incidents graves à signaler. Le dispositif policier s'étend bien au-delà des Champs-Élysées. Il concerne notamment le secteur des grands magasins, par exemple, ou encore la place de la République, puisqu'on le rappelle, c'est le seul endroit, place de la République, où les Gilets jaunes ont déclaré qu'ils voulaient se rassembler cet après-midi. Et les autorités restent sur le qui-vive avec les affrontements de ce matin et les craintes d'autres violences cet après-midi, car plusieurs groupes extrêmes de droite et de gauche ont appelé également à manifester.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Voilà pour la situation à Paris. Des actions encore ce samedi en région. C'est le cas au péage d'Antibes sur la 8 où vous vous trouvez, Jacques Terrance, avec une particularité. Les Gilets jaunes ont été rejoints par les pompiers.
Oui, ici, entre 100 et 120 pompiers manifestent sur le double péage d'Antibes où ils filtrent en ce moment le trafic de l'autoroute A8. Ces pompiers venus de tout le département des Alpes-Maritimes sont en tenue de travail. Certains portent même le casque comme s'ils allaient au feu. Parfois, ils allument aussi des fumigènes. En ce moment, c'est d'ailleurs barbecue. Pour Bertrand, pompier à Cannes, être ici aujourd'hui, c'est évidemment une évidence.
On vient montrer qu'on est solidaire au mouvement des Gilets jaunes et en tenue parce que on est concerné comme les autres. Pour des problèmes financiers, on est tous pareils. On a du mal à s'y retrouver à la fin du mois. On a du mal à finir nos fins de mois. C'est important, effectivement, hein, que le gouvernement s'aperçoit que toutes les entités professionnelles sont concernées par le sujet, que ce soit des entités rattachées à certains ministères ou pas.
Et si ces pompiers, ici ces pompiers demandent aux automobilistes de retirer les télépéages pour ne pas être facturés, automobilistes qui, malgré les bouchons, soutiennent ces pompiers, vous l'entendez sans doute derrière moi, à coups de klaxon.
C'est très bien, ils doivent continuer et plus arrêter. J'ai un pompier derrière là. En retraite, ils ont une petite retraite de rien du tout. Ils doivent travailler, ils doivent le faire, c'est bien pour eux. Ah bah bien sûr, à fond, et si je pouvais être là, j'irais.
Voilà, et quant aux dizaines de 10 Gilets jaunes mobilisés eux aussi ici depuis 2 semaines, ils approuvent cette mobilisation des pompiers et espèrent que derrière des policiers ou des hospitaliers vont suivre.
Et Jacques Terrance, péage d'Antibes sur l'autoroute A8 pour Europe 1. On vous retrouvera, Jacques, d'ailleurs, dans Tout Terrain à 13h pour voir comment les Gilets jaunes accueillent cette mobilisation des pompiers à leur côté. On va faire maintenant un point complet sur les autres opérations en cours en région. Comme la semaine dernière, Marion Jort, beaucoup d'actions qui se concentrent encore autour des axes routiers.
Oui, des opérations de péage gratuit pour la plupart, comme c'est le cas en Gironde, à Bordeaux par exemple, ou à Abbeville dans les Hauts-de-France, mais aussi des opérations escargots aux abords des grandes zones commerciales en Bretagne ou dans l'Aube. Sur les grands axes, la circulation peut être compliquée. L'autoroute A9 est actuellement bloquée dans les deux sens par une centaine de manifestants au niveau de Bessan dans l'Hérault. Même chose pour la 63 à hauteur de Biriatou à la frontière franco-espagnole. A noter que l'aéroport de Nantes a brièvement fermé ce matin après l'intrusion d'une cinquantaine de gilets jaunes sur le tarmac. Ils ont déployé une banderole Macron démission avant d'être évacués. Mais globalement, Fabienne, selon nos informations, la mobilisation est en nette baisse par rapport à la semaine dernière.
Marion Jort, dans un instant, nous serons à Nogent-sur-Marne où les responsables de La République En Marche sont réunis pour élire leur nouveau délégué général. Nous verrons surtout quelle est l'ambiance alors que les discussions entre gilets jaunes et l'exécutif sont dans la passe après la réunion hier à Matignon.
La suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et direction le pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. C'est là que les responsables de La République En Marche sont réunis pour introniser le nouveau patron du parti. Rendez-vous prévu de longue date avec l'élection attendue sans surprise de Stanislas Guérini pour remplacer Christophe Castaner. Mais dans tous les esprits, Aurélie Herbemont, ce qu'il y a, c'est bien sûr la crise des Gilets jaunes.
Et oui, effectivement, difficile de faire abstraction du climat gilet jaune ici. D'abord parce que le programme en est chamboulé. Le Premier ministre devait être présent. Finalement, il a préféré aller à la préfecture de police de Paris. Même le lieu de ce rassemblement macroniste a été modifié. Il devait avoir lieu dans Paris, mais les marcheurs ont préféré se délocaliser ici, au pavillon Baltard, où le dispositif de sécurité est renforcé. Les quelques gilets jaunes qui ont voulu s'approcher ont été maintenus à bonne distance par des CRS. Alors ici, évidemment, on garde un œil sur ce qui se passe aux abords des Champs-Élysées. Le tout nouveau patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, condamne les violences. Quant au porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, il appelle à faire la distinction entre les casseurs et les vrais gilets jaunes.
Ceux-là, ils sont dans une détresse sincère. Elle ne date pas des 18 derniers mois, on le sait bien. Elle est plus ancienne et ils demandent au fond qu'on puisse remettre de l'optimisme et à retrouver confiance dans l'avenir. Ceux-là, on les respecte. Ceux minoritaires qui sont là pour casser, pour taper du flic, ceux-là, ils n'ont pas leur place dans les cortèges. Ils n'ont pas leur place sur la voie publique. Leur place, c'est d'être arrêtés et déférés devant la justice et jugés comme tels.
Le gouvernement qui maintient sa volonté de dialoguer avec les gilets jaunes de bonne foi, mais difficile de nouer une discussion avec un mouvement sans représentant officiel légitimé par la base.
Aurélie Herbemont à Nogent-sur-Marne sur Europe 1. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cet acte 3 de la mobilisation des gilets jaunes. On y revient bien sûr longuement dans Tout Terrain à partir de 13h. Et puis avec mon invité Jean-François Madieu, spécialiste des relations sociales, dans quelques minutes.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Le football est la suite de la 15e journée de Ligue 1. Et ça s'annonce comment ?
Très belle journée, effectivement. Alors hier,
j'étais resté sur Saint-Etienne, c'est
oui,
pour ça.
Oui, je le sais. Alors on va revenir quand même sur Saint-Etienne qui a gagné hier assez largement et facilement 3-0 face à Nantes. Cet après-midi, ça s'annonce beau et bon avec un Lille-Lyon qui s'annonce merveilleux. Le quatrième qui reçoit le second. Alors c'est un défi pour ces deux équipes qui sont en chasse de la deuxième place. Et pour Lille particulièrement, qui après un bon début de saison semble un peu en perte de vitesse en ce moment. Julien Froment.
Le menu des 5 prochains jours s'annonce pour Lille des plus copieux avec cet après-midi en plat de résistance l'Olympique Lyonnais, auteur d'une solide prestation en Ligue des Champions contre Manchester City. Puis en dessert mardi prochain, un déplacement périlleux chez le 3e Montpellier. Alors oui, Lille reste sur une série de 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Mais les Dogs retrouvent à 17h un cadre réconfortant, le stade Pierre-Mauroy où ils sont encore invaincus. L'entraîneur Christophe Galtier a toutefois alerté ses joueurs en conférence de presse. Ils devront réaliser un très grand match pour battre Lyon, qu'il considère comme la deuxième meilleure équipe de France derrière le PSG. En tout cas, cette affiche promet entre deux équipes qui aiment faire le spectacle.
Julien Froment. Et puis ce soir sur Europe 1, vous pourrez suivre Angers-Caen, Nîmes-Amiens, Guingamp-Nice et Monaco-Montpellier, tous ces matchs à 20h.
On passe au rugby, retour au top 14 après les matchs amicaux de l'équipe de France.
11e journée aujourd'hui avec tout à l'heure Clermont, le leader qui se déplace à Montpellier. Et puis surtout, on aura un œil sur Toulon qui joue ce soir. Toulon, 12e seulement et dont la forme inquiète. Le prix à payer quand on opère autant de changements, estime l'ancien joueur qui a fini sa carrière au club, Vincent Clair.
Il y a un top 14 qui marche bien sur le début d'année, je trouve qu'il est assez plaisant à regarder. Il y a des équipes en difficulté dont Toulon fait partie, qui est sûrement sur une année de transition avec un nouveau coach, c'est sûr, mais surtout énormément de départs. Il y a eu presque 17 départs l'année dernière. Bah, pour l'instant, il manque ce petit plus, c'est exactement pareil. On les a vus bien dans le match contre Bordeaux, puis ils ont pris ce carton rouge. Quand on est dans une spirale négative, on ne joue pas à libérer. Et c'est vrai que le haut niveau, c'est ça, c'est cette fragilité entre la confiance et quand on est stressé, quand on a le poids du résultat sur les épaules, on ne fait pas exactement les mêmes gestes comme on devrait les faire et pour l'instant c'est ce qui plombe beaucoup Toulon, mais pareil, c'est une équipe qui n'est sûrement pas à sa place à l'heure actuelle.
Vincent Clair au micro de Corinne Boulou.
Dans le reste de l'actualité sportive, du ski d'abord.
Du ski, c'était la descente de Beaver Creek cette nuit, le Suisse Feuze qui s'impose, mais bonne 4e place pour Adrien Théo, suivi de près par Johan Claret, 5e, toujours aux États-Unis aujourd'hui, place au slalom géant à 19h. Le handball, c'est l'Euro féminin, les Bleus se reposent, mais plusieurs matchs, notamment Hongrie-Pays-Bas, Espagne-Croatie ou encore Norvège-Allemagne. Et puis le journal Der Spiegel qui enfonce Cristiano Ronaldo, le journal allemand qui est à l'origine de la révélation d'une accusation de viol d'une américaine contre le joueur de football. Et bien aujourd'hui, le quotidien allemand publie des documents écrits qui montrent que Ronaldo était bien conscient que la jeune femme n'était pas consentante. Pour rappel, les faits remontent à 2009 et une enquête est en cours.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir le temps de ce samedi.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la journée s'annonce très maussade, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, et ça se confirme, une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse avec des rafales à 70 km/h en moyenne, arrivée ce matin par le nord-ouest, s'étend désormais des Ardennes au Limousin en passant par le centre, par l'Auvergne, par le Poitou-Charentes, la Gironde, la région parisienne et les Hauts-de-France. Sur les régions méditerranéennes, les Alpes jusqu'au Jura, là le temps est toujours agréable malgré un voile nuageux et les maximales aussi entre 9 et 15 degrés d'est en ouest, 16 à 18 dans le sud. Et demain, on va rester sous la pluie, mais cette fois sur les deux tiers nord de la France. Le tiers restant au sud va conserver le beau temps et les températures vont grimper et être dignes d'un mois de mai. Et oui.
Étonnant. Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes avec une nouvelle journée d'action à travers toute la France. Et alors que les discussions avec l'exécutif sont dans l'impasse, on en parle dans un instant avec mon invité Jean-François Amadieu, spécialiste des relations sociales.
12h49, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et votre témoin de la semaine.
Et l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes, beaucoup de tensions, nous l'avons entendu au début de ce journal, autour de la place de l'Étoile, avec déjà 81 interpellations. Avec nous en studio, le sociologue Jean-François Amadieu, spécialiste des relations sociales. Bonjour.
Bonjour.
J'ai d'abord envie de vous parler, Jean-François Amadieu, de cette image de ces Gilets jaunes autour de la tombe du soldat inconnu qui entonne la Marseillaise.
Bien sûr. Alors, bon, évidemment, il faut préciser que c'est visiblement des éléments peut-être de l'ultra-droite, en tous les cas proches de cette sensibilité ou d'extrême-droite. Cela dit, c'est un beau symbole, en effet, et il était certain qu'il s'en emparait. Et en plus, il faut ajouter que l'Arc de Triomphe, pour la presse internationale, pour les images, c'est extrêmement symbolique. Tout le monde a compris que ça représente très largement Paris. Donc, c'est presque bizarre, d'ailleurs, qu'on ait laissé les choses se faire sur la place de l'Étoile.
Extrêmement symbolique, parce qu'on se souvient effectivement du centenaire de l'armistice, c'était il y a seulement quelques semaines à Paris. Pour revenir plus globalement, vous qui suivez et scrutez ces gilets jaunes maintenant depuis près de 3 semaines et leurs revendications, à quoi peut-on comparer ce mouvement, au-delà de cette image dont on parlait, à quoi peut-on comparer ce mouvement dont vous dites qu'il est totalement inédit? J'ai presque envie de dire que vous-même, sociologue, vous avez perdu tous vos repères.
Oui, on va de découverte en découverte, alors c'est très sympathique, mais enfin, il n'y a aucun élément de comparaison, ni en France d'ailleurs, ni à l'étranger. Il faut savoir qu'au départ, c'est un simple, au fond, c'est une question d'automobiliste. La pétition de Priscilla Ludowski, et au départ, c'est simplement ça, juste une question de taxe sur le carburant.
Pour dénoncer la hausse du prix
du
carburant.
Déjà, c'était innovant, parce qu'il faut quand même savoir que des automobilistes qui parviennent à se regrouper, à faire quelque chose, c'était déjà, on n'avait jamais vu ça. Ensuite, rapidement, il y a une extension, et on n'a jamais vu, si vous voulez, une telle composition. Je parle des gens qui sont sur les barrages, qui sont un petit peu actifs. C'est une sociologie très particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque vous avez toutes les catégories, enfin pas toutes les catégories, mais enfin des gens qu'on ne voit pas l'habitude.
Beaucoup de femmes, retraités, des gens qui travaillent, des retraités.
Des retraités en très grand nombre, ça c'est vraiment frappant. Sinon des gens qui travaillent, mais des femmes, des quinquagénaires. Et finalement, ce sont les jeunes qui sont les moins présents, ni étudiants, très peu de lycéens finalement. Donc pour l'instant, c'est un peu particulier. Tout le monde sait que c'est très rural aussi, mais ça, on n'avait jamais connu. À quoi vous ajoutez Internet, les réseaux, etc. Ça, on ne connaît pas l'équivalent pour le moment.
Ce qui est marquant encore hier, c'est la défiance de ces gilets jaunes par rapport au pouvoir politique. Quand on voit que seulement 2 gilets jaunes se sont présentés à Matignon sur les 8 invités, au final, il y en a un seul qui sort.
C'était ce qui s'est passé hier à l'hôtel Matignon avec le Premier ministre, surréaliste, autant le dire. C'est vraiment le signe, si vous voulez,
d'une impasse.
Alors non seulement d'une impasse au plan de comment sortir de cette crise, qu'est-ce qu'il faut céder pour que les choses s'arrêtent, c'est ce que les Français dans les sondages souhaitent, donc comment en finir. Et surtout, il y a un vrai problème qui est que, vous avez remarqué par exemple, c'est très symbolique, le fait que des gilets jaunes veulent absolument que tout soit enregistré, filmé, en direct, et que c'est complètement contraire aux habitudes.
C'est ce que disait le gilet jaune de Charente qui était présent à Matignon et qui a quitté la salle parce que
l'exécutif ne le veut pas. Donc on voit qu'il y a
direct, vraiment
ce qui est sans précédent, on n'a jamais vu ça, une telle manque de confiance à l'égard de tout représentant et bien sûr de l'exécutif.
Et même entre eux d'ailleurs.
Et même entre eux. Donc c'est tout représentant. Avec une grande, vraiment une fois plus, une méfiance de tout ce qui ressemble à des corps intermédiaires et à des représentants. Donc bien sûr, dans tout ça, vous avez la marginalisation totale, bien sûr, des organisations syndicales qui sont hors jeu.
Et qui défilent d'ailleurs normalement à Paris,
la CGT toute seule, il n'y a même pas d'union syndicale, et la CGT est toute seule dans son coin, et d'ailleurs n'avait pas demandé aux autres organisations syndicales d'être avec elle.
Jean-François Amadieu, vous me le disiez, ce qui vous a marqué, c'est que malgré les violences de la semaine dernière, le mouvement n'a jamais été aussi populaire. On l'a vu dans les sondages cette semaine, 84% des personnes interrogées trouvent cette mobilisation justifiée 7 points de plus qu'en une semaine.
Oui, alors ça c'est un phénomène qu'on n'a jamais vu avant, c'est assez incroyable et ça en dit long sur ce qui risque de se passer dans les temps qui viennent, la gravité de la situation dans laquelle on est, parce que Normalement, quand il y a, et notamment depuis ces dernières années, lorsqu'il y a des débordements, des violences, il y a dans les sondages une légère baisse de popularité. Sachant que les Français ont l'habitude, depuis 1789, ils ont l'habitude des violences et d'obtenir des résultats en prenant des bastilles avec les fourches, etc. Donc ça, dans la mentalité française, c'est classique. Que les mouvements sociaux soient populaires, c'est classique aussi. Des popularités à 75%, mais 80, même 85.
Mais on n'avait pas vu la même popularité quand on avait dénoncé la loi El Khomri.
Oui, c'est ça.
Ces dernières années.
Oui, mais là, donc c'est une popularité très élevé en effet. Et c'est vrai que le plus frappant, c'est deux éléments. Le renforcement de la popularité de plus 5 points, ce qui est incroyable, après des morts, des blessés, des affrontements, des violences, etc. Ce qui est vraiment très nouveau.
Ça témoigne d'une parole qui a besoin de se libérer et
oui,
d'être entendue.
Alors, une parole qui a besoin d'être libérée, et c'est même plus inquiétant que ça, parce que c'est les signes, si vous voulez, convergents d'une situation qui devient très compliquée à gérer, une sorte d'impasse, parce que, je dirais sans employer un mot peut-être excessif, mais il y a un petit côté révolutionnaire dans ce qui est en train de se passer.
Et comment donc, on en sort ?
Et c'est ça, d'habitude, dans les autres équivalents qu'on a en France, Plan Juppé, CPE, etc. Dans toutes les crises, même 68, on s'en sort facilement parce qu'on deal avec les syndicats. On peut reculer.
On a un interlocuteur.
Voilà, on a un interlocuteur. Deux, on peut céder quelque chose de précis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut céder ? L'exécutif s'est placé dans une situation où il y a plein de revendications, mais c'est très compliqué.
Qui peuvent être légitimes.
Et il y a quelques jours, il y a encore peut-être 10 jours, c'était assez facile. Il y a 15 jours, encore plus facile. Il suffisait de revenir sur moratoire sur la taxe carbone, revenir sur les taxes du carburant. Aujourd'hui, même si vous faites ça, ça ne suffira pas. Donc évidemment, l'exécutif s'est placé dans une situation très compliquée parce que là, les conditions de sortie, sans interlocuteur syndical, ça va être compliqué.
Merci beaucoup Jean-François Amadieu, spécialiste des relations sociales, de nous avoir éclairé sur ce mouvement, vous le disiez, totalement inédit. On poursuivra d'ailleurs la discussion dans tout terrain. À partir de 13h, on retrouvera nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées, Place de l'Étoile, mais aussi à Nice, où je le disais, à Antibes. Jacques Terrand se trouve sur un péage où certains pompiers ont rejoint les Gilets jaunes. Et puis nous reviendrons sur cette parole à l'écoute des Français. Europe 1 était à l'écoute des Français à Mourinx pendant une semaine. Et nous serons avec nos deux reporters qui étaient sur place.
Oui, tout terrain de 13h à 14h sur Europe 1. Et dans un instant, le rappel des titres de l'info. Europe 1.